que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. À l'occasion des 20 ans d'anniversaire de Radio Okapi, Okapi Service vous invite à participer aux émissions spéciales 20 ans chaque lundi et vendredi jusqu'au 25 février 2022. Quels sont les impacts des émissions de la Radio de la Paix dans votre vie ou dans votre communauté? Avez-vous des histoires à raconter, des témoignages à partager? Alors rendez-vous chaque lundi et vendredi dans Okapi Service. Et le 25 février, production publique d'Okapi Service en direct de la Halle de la Gombe de 9h à 12h. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Nous parlons de la lutte contre les changements climatiques. Comment mobiliser les fonds? Eh bien, le pacte des 500 millions de dollars américains a fait partie d'un ensemble d'accords importants signés lors de la COP26 pour mettre fin à la déforestation en RDC d'ici 2030. Cet accord majeur a manqué sa première échéance de décaissement quelques mois seulement après sa signature, selon Greenpeace. Ce retard de financement est lié à l'absence de publication de l'audit de tous les contrats d'exploitation forestière en RDC. Cette publication est va aider à éliminer les contrats illégaux tels que ceux qui ne protègent pas les intérêts des communautés locales, selon la même source. Alors, et qu'est-ce qu'il faut pour accélérer le financement, mobiliser les fonds par rapport à la lutte contre le changement climatique en République démocratique du Congo? Nous avons dans ces studios M. Guy Nkajimba. Bonjour.
Bonjour, Sadi.
Vous êtes coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. En ligne, Monsieur Alain Parfait Ngulungu, représentant pays de l'ONG Ténure Facility. Monsieur Alain Parfait, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les amis.
Bien. On commence avec vous, monsieur Guy Nkajimba. Alors, nous parlons de la mobilisation des fonds. On parle du pacte des 500 millions de dollars qui devait être mobilisé. Mais la première partie s'est déjà ratée. Il n'y a pas eu de décaissement comme prévu. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bon, je viens de l'apprendre ici et je suis surpris. Parce que la signature de la lettre d'intention a été effective et les engagements ont été pris. Je pense que l'étape qui suivait, c'est la programmation, la planification, une grande programmation pour essayer un peu de définir un peu les grandes lignes de l'exécution ou de la mise en œuvre des grandes lignes de l'exécution ou de l'utilisation de ces fonds-là. Mm. Et c'est ce travail-là qui doit être fait durant cette année. Il n'est pas question, ce n'était pas automatique, on n'a pas dit que dès lors qu'on a fini, qu'on va décaisser. Seulement, là où je peux revenir, c'est qu'effectivement, dans la lettre d'intention, il y avait un certain nombre d'engagements que la République avait pris. Mm. Et ces engagements-là étaient...
Qui conditionnent le décaissement de cet argent?
Bon, qui font partie de... Pas conditionnés, qui font partie des objectifs, des étapes à suivre. Et parmi ces étapes-là, il y a effectivement la finalisation de la revue légale qui avait déjà débuté et qui devait donner une certaine lumière sur les concessions illégales ou sur la gestion de toute la question des concessions. C'est effectivement ça, c'est parce que c'était déjà un des engagements de la RDC qui n'est pas encore, qui est déjà en principe qui devait être déjà atteint au plus tard au mois de février, je crois. Et là, c'est un couac. Et ensuite, il y a un certain nombre d'engagements sur lesquels la RDC s'est engagée durant la mise en œuvre, durant la mise en œuvre de la lettre d'intention.
Mm. Bien, Monsieur Alain Parfait, quel est votre avis par rapport à ce pacte des 500 millions avant son décaissement? On comprend qu'il y a toute une procédure à suivre.
Oui, merci beaucoup pour la question. Salutations aussi à mon collègue Guy Kajemba qui est sur le plateau. En fait, il faut comprendre comment fonctionne les mécanismes de financement climatique. Et si vous le comprenez bien, lorsqu'on a octroyé les 500 millions de dollars à la RDC lors de la COP26 à Glasgow, l'État parti, la RDC dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, s'était engagé en face de la communauté internationale de pouvoir répondre dans sa lettre d'intention à un certain nombre d'engagements et vont justement clairement affirmer son ambition de pouvoir réduire les 8 objectifs ambitieux, les 8 objectifs climatiques pour justement aborder tous les moteurs des déforestations et des dégradations, étant donné qu'elle a été, et la RDC a été décrétée comme pays solution. Et de ces 8 objectifs ambitieux, il devait y avoir une planification d'action devant matérialiser ces 8 objectifs. Malheureusement, il me semble que rien n'est fait jusqu'à maintenant, et comme vous le savez, le financement durable, c'est un financement qui requiert assez de conditionnalités. Et c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. C'est pas de l'aide publique au développement comme on l'a connu par le passé. C'est un financement très exigeant en matière des critères et de respect surtout des engagements pris. Et donc si la RDC n'a pas pu respecter ces engagements-là, il me semble qu'il sera très difficile de pouvoir bénéficier de ces financements-là. Et ça, c'est clair pour la communauté internationale.
Et quels sont ces 8 objectifs dont vous faites allusion?
Bon, le 8 objectif, c'est contenu dans la lettre d'intention signée entre la RDC ce qu'on appelle CAFI, donc Central Africa of Forest Initiative, portée par plusieurs pays du Nord, essentiellement par des pays comme la Norvège, qui ont mis beaucoup de moyens, qui demandent à ce que la RDC, d'abord, ait une politique agricole, justement pour assurer le développement rural et la sécurité alimentaire, afin de limiter l'impact de ces secteurs sur les forêts, où on a versé assez de millions de dollars pour cela. Il faut que nous ayons une politique énergétique. Comme vous le savez, les bois énergie est l'un des moteurs de déforestation dans notre pays. Et donc, il y a des fonds disponibles qui ont été injectés dans ces financements-là pour justement contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la politique forestière qui traîne encore. Il y a une politique d'aménagement du territoire, bien qu'on a déjà un document de politique qui a été même validé. Il y a la politique foncière qui venait d'être aussi validée. Et donc, tous ces éléments, il y a aussi les aspects de la gouvernance. Ce sont ces piliers-là, ces secteurs-là importants dont on attend de réformes importantes pour la RDC, pour un pays comme la RDC, afin de pouvoir bénéficier de cette manne-là financière accordée dans le cadre du Fonds vert climat par la communauté internationale.
Mais selon le Greenpeace, on a déjà raté l'échéance pour le premier décaissement parce qu'il fallait publier, faire l'audit des accords, de tous les contrats d'exploitation forestière.
Oui, mais ce n'est qu'une partie remise, ce n'est pas en croire à nos amis de Greenpeace, rien n'est prédit qu'on a échoué. Il y a toujours de la chance pour la RDC de pouvoir accélérer les actions pour pouvoir bénéficier de cela. Mais si on n'arrive pas à les matérialiser, donc rien n'est présage que nous aurons à obtenir ces financements-là. Mais nous encourageons le gouvernement à multiplier d'efforts pour pouvoir bénéficier, comme les autres pays aussi, partie à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de ces financements climatiques.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Malonga et Taban Ndouville, et bienvenue de Kinshasa. Malonga, bonjour, et quelle est votre question?
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité, à tous ceux qui nous suivent. Bon, ma question va se baser sur les crises. La lutte contre le réchauffement et la protection de cette terre doit se focaliser sur les ministères des tuteurs, les ministères de l'environnement. Mais moi, je regrette beaucoup, et c'est ce que je demande souvent, je dis si vous vous rappelez de mes interventions, c'est pourquoi le ministère de l'environnement fait semblant de ne pas s'associer à ce dont on finance pour exécuter plusieurs tâches qui est là. Alors, on avait financé, c'est comme le chèque, selon vous nous communiquez là-bas, qu'il y a le chèque de cette première tranche. Or, le ministère de l'Environnement est là. Madame et fils, vice-premier ministre est là, de l'environnement. Les agents signants, les 26 provinces sont là. Ce sont eux qui doivent recevoir les ordres hiérarchiques et exécuter tout ce qui viendra de cette hiérarchie. Mais nous voyons sur le terrain, ceux qui sont basés à faire cela, ce sont autres qui ne savent même pas le principe environnemental. Ils bénéficient seulement de l'argent et veulent seulement faire le semblant. Raison pour laquelle nous voyons chaque fois qu'à chaque fois on lance cet effet, il n'y a pas vraiment de résultats concrets, il n'y a pas vraiment de choses que le monde attend pour que l'amélioration de notre environnement.
D'accord, donc vous dites que le ministère de l'Environnement est là, et puis bon, les ordres ne sont pas donnés, et etc. Merci, on va accueillir bienvenue de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la mobilisation des fonds pour, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques?
Oui, lors de la COP 21, on avait animé la même émission, je crois, avec les mêmes invités. Moi, j'avais émis.
Lors de la COP 26, si vous voulez dire.
Oui, de la COP 26, je m'excuse. J'avais émis les doutes par rapport à la participation de la RDC. Nous voyons comme si nous avons les autorités, excusez-moi le terme, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi à chaque fois le Congo doit être toujours installé? Nous voyons même dans l'histoire de l'ITIE, chaque fois nous sommes suspendus, nous sommes ceci parce qu'on ne sait pas respecter les normes. Soit nous avons des autorités ou ils ne le sont pas. Pourquoi ils ne peuvent pas rendre au Congo sa grandeur? À chaque fois nous devons être interpellés pour des petites choses, pour publier les contrats que vous dites là. Ça doit demander quoi pour une république telle que la nôtre, que nous soyons calés, on ne sait pas bénéficier de notre premier financement. Quand même, ça nous diminue. Pourquoi ils cherchent à chaque fois politiser ces histoires? Il serait souhaitable qu'on implique les experts de ce secteur. Peut-être on n'aurait pas arrivé à ce niveau-là.
D'accord, merci. Monsieur Guy Kanchemba, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Oui, j'entends beaucoup de choses. Et je suis très intéressé de voir que... Je vois que notre pays, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à notre pays. Je dis bonjour à Alain Moulungu, qui est un expert que j'apprécie beaucoup par rapport à tout ce raisonnement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, c'est un peu alarmiste, ça, c'est l'habitude des ONG en termes de Greenpeace, d'être alarmiste et de mettre toujours les gens dans des situations comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait un problème à ce moment ici, parce que nous avons eu des réunions, par rapport au déploiement de la lettre d'intention. Les conditions qui sont, enfin, les engagements, ce ne sont pas des conditions, ce sont des engagements qui sont pris de part et d'autre. La RDC a des engagements et CAFI a des engagements. Ces engagements-là sont programmés dans le temps. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas des conditions. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, c'est comme on dit, à la fin de l'année, on doit finaliser la programmation géographique. Par exemple, d'ici 2022, on doit finaliser la programmation géographique. D'ici 2023, on doit, aller vers la politique forestière. D'ici 2025, ce sont des conditions ou des engagements que les uns et les autres prennent dans les déploiements. Ce n'est pas, la décision a été prise, l'argent a été décaissé.
Décaissé.
L'argent est là. Le travail qui reste et qu'on doit faire, qu'on tente de faire d'ailleurs, c'est de faire une programmation géographique et d'ici là, on lance l'appel à manifestation d'intérêt pour avancer. En même temps.
Mais déjà, avec les contrats qui existent, les contrats d'exploitation forestière, est-ce que dans la déclaration d'intention, il était prévu que ces contrats soient publiés?
Dans les engagements de la RDC, il était question de finaliser la revue légale qui est en cours, qui est d'ailleurs amenée par l'Union européenne. Et qui a traîné d'ailleurs, parce que depuis le dossier de 9 concessions avec le ministre Namugabo, que nous avions demandé qu'il y ait un audit de toutes les concessions forestières. Le principe avait été acquis et on avait accepté.
Est-ce que cet audit a déjà eu lieu?
Il a été lancé et nous nous inquiétons effectivement parce qu'on devait avoir contact avec nous programmer une réunion avec nos amis de JBEC, donc l'ambassade de la Hollande qui préside le groupe interbailleur sur l'environnement et le climat, pour essayer un peu de comprendre un peu où est-ce qu'on en est, quel est le problème qui fait en sorte que on n'avance pas vite. Parce que dans l'engagement initial, quand on négociait, c'était en fin mars qu'on devait avoir le premier rapport de la revue légale.
Fin
donc,
mars.
Oui.
Donc, je donc pense, on a encore du temps.
Il y a encore, c'est, je ne comprends pas pourquoi est-ce que il y a beaucoup d'agitation là. Et même si ce n'est pas une raison qui va bloquer à ce qu'on puisse continuer là, le processus de programmation géographique, de programmation de toute la lettre d'intention pour les 500 millions. Et donc, on ne dit pas aujourd'hui que s'il y a un retard ou un glissement dans le travail qui est fait, qui peut être justifié au niveau de l'Union européenne, que c'est ça ce qui va bloquer le financement de je ne suis pas en train de comprendre d'où vient ce message. Parce que nous avions eu la première lettre d'intention. Nous avons vu comment les déclassements sont faits.
Oui.
C'est pas une nouveauté. Nous avions été au comité technique et au comité de pilotage pendant la lettre. Ça progressait au fur et à mesure et il y aura une évaluation. Vous voyez? C'est au cours de cette évaluation, à mi-parcours, en 2025, je crois, ou en 2022, je ne sais pas encore, où on va décider ou non de faire de donner une autre tranche. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans la lettre d'intention, vous allez trouver quelque part que la tranche qui va suivre, après cette tranche ici, sera conditionnée par une évaluation des engagements du pays qui ne sont pas encore faits. Greenpeace les a fait à quel niveau? Vous voyez? Donc, je voulais vraiment être. En plus de ça, ce que je voulais dire, et ce qu'Alain a dit aussi, c'est que les autres engagements sont financés par la LOI. Comprenez, ce ne sont pas des conditions. C'est-à-dire, dans la LOI, il y a des ressources qui vont aider à ce que la RDC puisse finaliser ou continuer à construire les différentes politiques. Ce n'est pas en amont. C'est pas dire non, vous faites d'abord la politique parce qu'il n'y a pas de ressources et puis après nous allons continuer. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans les appels à manifestation d'intérêt, dans les engagements dans la programmation de 500 millions, il y aura des fonds qui seront destinés à accompagner le gouvernement pour finaliser, que ce soit la politique agricole, la politique énergétique, foncière, disons forestière et autres réformes possibles. Qui avait déjà commencé avec la première d'intention. Et par exemple, pour l'aménagement du territoire, déjà, on a déjà une loi. Vous voyez? Et donc, il y a d'autres qui sont en cours. On a validé la fois dernière.
Les experts sont en train de travailler dessus.
La politique foncière, oui. Et qu'il y a maintenant de financements additionnels qui vont suivre, qui sont programmés dans la deuxième d'intention pour poursuivre le travail. Et que donc, ce n'est qu'à un moment de l'évaluation, à mi-parcours, que nous pourrons dire qu'il y a telle faiblesse. Et à ce moment-là, la décision de CAFI ou des partenaires peut intervenir pour dire, voilà, nous venons de faire une évaluation à mi-parcours et nous avons constaté que les engagements de la RDC n'ont pas été respectés à tel ou tel niveau et par rapport à telle période.
D'accord. On va accueillir Jurès et Maka de Bandundouville. Bonjour Jurès.
Bonjour Jody.
Quelle est votre question?
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, ce n'est vraiment pas une question, mais c'est une intervention. Comme vous l'avez suivi, mon commentaire sur Facebook, je disais, déjà nous devons nous convenir sur une chose. Les populations qui dépendent bien sûr des forêts et d'autres ressources naturelles ne peuvent pas être arrachées de ce mode de vie.
Oui, on vous entend. On vous écoute, Jurès. Désolé, il n'est plus là. Et il va certainement nous rappeler. Monsieur Alain Parfait Ngulungu, votre avis par rapport aux questions des auditeurs de tout à l'heure?
Question aux auditeurs, je commencerai par la question liée aux attributions sectorielles des ministères. Je crois qu'il y a une ordonnance qui répartit clairement les compétences liées ou les attributions liées à chaque secteur. Pour ce qui est de l'environnement et développement durable, je sais, comme vous le constaterez, c'est maintenant un méga ministère avec beaucoup d'attributions, avec justement des compétences aussi en ce qui concerne les matières liées à l'environnement, aux forêts et au développement durable. Donc vous avez là une véritable machine pour mettre en action et mettre en œuvre les activités de développement durable et voire même des gouvernances forestières. Et donc, par rapport à cela, il va falloir comprendre ça de cette manière-là. Mais quant au ministère des Finances, justement, il a aussi ces attributions-là, notamment de mobiliser les fonds, de signer des accords de financement avec les partenaires internationaux. Et donc, je crois que la matière est clairement répartie entre les ministères. En ce qui concerne la mobilisation des fonds, le financement climatique exige aussi un travail sur le plan interne, c'est-à-dire à mobiliser les fonds pour justement arriver à à aider les pays à s'acquitter de ce qu'on appelle, à mettre en œuvre ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau pays, qui est une sorte d'un document cadre qui oriente toutes les actions du pays en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Et cela établit aussi des procédures pour voir dans quelle mesure nous allons nous adapter ou atténuer les changements climatiques. Alors, notre pays maintenant a un problème sérieux. On fait un effort de solliciter les financements sur le plan international, mais peu d'efforts sont faits pour mobiliser sur le plan local les financements. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a des solutions, comme on dit, basées sur la nature. Nous-mêmes, à travers les réformes que nous allons faire ici dans notre pays, nous sommes en mesure de mobiliser notre fiscalité, de repenser un peu notre gouvernance pour justement engager des fonds concourant à la lutte contre les changements climatiques. Il me semble que peu d'efforts sont faits dans ce sens-là. On attend beaucoup de l'extérieur, alors que nous pouvons nous-mêmes aussi, si nous avons une très bonne gouvernance des finances publiques, mobiliser les fonds pour nous aider justement à faire face aux effets des changements climatiques.
Et au niveau interne, il faut mobiliser les fonds à quelle hauteur?
Bon, selon les documents des contributions déterminées au niveau pays, il est attendu d'ici à 2030 une mobilisation de 30 milliards de dollars, une enveloppe de 30 milliards, mais je crois qu'elle doit être répartie sur le plan local, régional et international. Déjà, comme la communauté internationale nous a tendu la main avec les 500 millions de dollars, et je crois que les restes, ce sont des efforts que nous-mêmes, en tant que pays, partis à l'accord de Paris, de pouvoir faire fournir ces efforts-là, pour mobiliser ces financements-là, la partie restante sur les 30 milliards de dollars.
Bien, on va accueillir l'ingénieur Senga depuis Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody.
Quelle est votre question par rapport à la mobilisation des fonds pour lutter contre le changement climatique?
Bon, par rapport à la mobilisation des fonds, moi je suis un peu à côté, parce que je ne voulais pas intervenir à ce qui concerne la mobilisation des fonds. Pourquoi? Parce que par rapport au projet Fonds Vert, je ne sais pas si vous connaissez ça, le projet Fonds Vert. Là, dans ce projet-là, c'est juste pour gérer les problèmes climatiques liés à l'environnement. Et depuis 3 ans ou 4 ans, comme ça, si je ne me trompe pas, il y a BESECO qui fait des démarches pour qu'il soit accrédité, afin qu'il y ait des fonds pour gérer les problèmes climatiques liés à l'environnement au Congo, au même titre que le Rwanda. Mais à ce que je sache jusque-là, BESECO n'est pas encore accrédité. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas encore donné ce qui a été demandé. Alors, on peut mobiliser des fonds. Et si on a des fonds à mobiliser, est-ce que qui va gérer ces fonds-là? Hein? Parce que le gouvernement, d'abord, lui-même n'est pas en mesure de respecter les lois que lui-même a établies par rapport à la gestion des forêts, par rapport à la gestion climatique, tout ça. Alors, si les fonds arrivent, qui va les gérer? Hein? Point d'interrogation. C'est pourquoi moi j'ai intervenu dans ce sens-là, parce qu'il y a de l'argent au niveau de la Banque mondiale sur les fonds verts qui pouvait donner des réponses à beaucoup de questions par rapport liées au climat et à l'environnement.
Bien, donc il y a l'argent est disponible, mais cet argent ne sera libéré que sous certaines conditions. Monsieur Guégin Kajemba, votre réaction?
Bon, je suis très heureux de suivre beaucoup d'analyses ici qui sont très pertinentes. Moi, je crois que c'est vrai que nous avons la mobilisation des fonds en RDC. Comme on a dit, la RDC, c'est un pays solution. Nous avons droit à de l'argent. Et je l'ai toujours dit ici, je l'ai dit toujours, ça n'a rien à faire avec les débats sur la gouvernance. Sinon, ça serait autre chose, une autre réflexion. Parce que ici, on parle de pays qui ont des réponses à des problèmes climatiques qui menacent l'humanité.
Et la RDC est un pays solution.
Oui. Alors, je me demande comment est-ce qu'on peut être un pays solution si on pense qu'on peut lier les questions climatiques aux questions de gouvernance. Parce que je suis sûr qu'on n'est même pas parmi les 100 pays les mieux gouvernés au monde. Vous voyez? Donc, moi, je crois qu'il faut d'abord que nous puissions aller dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que notre contribution déterminée nationale a été validée et déposée en décembre, et postée en décembre aux conventions cadres des Nations Unies pour le changement climatique, c'est de 43 milliards de dollars. Notre capacité de répondre est conditionnée par le financement de 43 milliards de dollars, où il y a beaucoup de plus de fonds, tous les fonds peuvent être dedans, notamment aussi les fonds verts. Et que donc, ça, c'est une autre chose. La question qu'on se pose, c'est l'expérience qu'on était en train de se faire avec la première détention, avec le plan d'investissement qui avait évalué à peu près à 1 milliard de dollars les besoins qu'on avait pour nous préparer effectivement à avoir des conditions habilitantes de sorte à ce que la RDC soit en mesure aussi de mobiliser et de contribuer aux efforts de financement. Et là, nous avons l'ensemble, même les 500 millions, c'est pour essayer un peu d'aider à ce qu'on puisse exercer, à mettre des conditions habilitantes, c'est-à-dire avoir faire des réformes, essayer d'être des projets, disons, des projets au niveau local, qu'on appelle des programmes intégrés, qui essaient un peu de faire un peu d'exercice qui donne un peu de moyens aux communautés de s'exercer. À avoir déjà l'habitude de travailler dans le cadre de la lutte contre le changement climatique
donc, tout
et
ça,
la
c'est,
protection
c'est,
des forêts.
Si je comprends bien, c'est le ministère de l'Environnement qui doit donner les go, mobiliser les organisations, etc., pour que les gens se préparent.
Oui, bon, je pense qu'il y a des responsabilités, disons, il y a une partage de responsabilités que je peux dire. Il y a beaucoup de parties prenantes. Il y a les communautés locales, il y a la société civile, il y a le gouvernement lui-même, qui a, avec les leads comme ministère de l'Environnement, mais il y a d'autres. Le bois énergie, c'était le deuxième moteur de la déforestation. Le premier moteur, c'est l'agriculture. Donc, le ministère de l'Agriculture doit être mis à contribution.
Il doit être aussi associé. Oui.
Et donc, c'est tout cet arsenal-là, tout un, disons, un mécanisme-là qui doit être mis en place pour que tous les uns et les autres puissent contribuer à ce qu'on puisse converger, évidemment, en mettant sur la table les documents de CEDEN pour voir quelle est la responsabilité de tout un chacun par rapport à la mobilisation et par rapport aux efforts pour que nous puissions, disons, accéder au financement.
Donc, on attend le premier financement vers la fin du mois de mars.
Le premier financement de quoi?
Disons, de ces packs de 500 millions de dollars que la communauté...
Non, mais ce n'est pas... Le financement de ces 500 millions de dollars ne pourront être faits que dès lors que la RDC va présenter un certain nombre de documents, des programmes
qui
seront validés au niveau du comité technique, au niveau de la RDC, et qui seront... qui porteront un certain nombre de enveloppes. Dans le passé, il y avait ce qu'il y avait 33 millions, 50 millions. Donc, c'est tout ça qui doit être programmé. Et progressivement, il y aura des décaissements une fois validés pour que les activités puissent continuer. Et il faut dire que...
Mais est-ce que sur le terrain, on se prépare, les experts sont en train de travailler réellement?
On ne part pas de zéro. Il y a d'abord des 100 millions qui ne sont même pas encore finis pour les uns, parce qu'il y a encore des programmes qui sont en cours. Vous voyez, donc c'est pas, la préparation a déjà été faite parce que vous disons ici que nous avions WIPIRED, nous avions déjà la politique de l'aménagement territoire qui existe, il y a des drafts, la politique foncière qui est là, donc il y a beaucoup de choses en chantier qui doivent être continuer à être mises en œuvre dans la deuxième lettre d'intention qui est une continuité de la première lettre. Il ne faut pas qu'on réfléchisse comme si on venait d'avoir...
C'est comme s'il n'y avait rien sur le terrain.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec les 200 millions. Et ça doit continuer, ça doit se poursuivre parce qu'il y a des investissements qui ont eu dans ce terrain-là. Vous allez trouver, nous on a fait le tour de ce pays, on a trouvé des champs pilotes, des cacao, des cafés.
Où ça, par exemple, dans quelle partie du pays?
Vous allez à Bouta, vous allez en Équateur, vous allez à Maïndombé. Il y en a, on a vu. Là. Donc, ces initiatives sont là. Il y a des
projets pour réduire la pression des autochtones sur
pour essayer un peu d'autonomiser les autochtones, pour leur donner les moyens de survivre, pour qu'ils puissent s'organiser à réduire les pressions pour les forêts. Vous savez qu'on vous a dit que l'agriculture, c'est un des moteurs de la déforestation sur Brûlis. Est-ce qu'il y a moyen? Il y a des projets pour encourager les communautés à faire l'agriculture dans des zones dégradées et dans des espaces savanicoles. Et à ce moment-là, il faut moins de va-et-vient dans les forêts et les forêts se régénèrent. Et là, on aura contribué à nos engagements au niveau international. Et voilà.
Bien, on va accueillir deux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique, comment mobiliser les fonds. Nous avons en ligne Jonathan et Kofo qui nous appellent de la Chuapa et Claudia de Kolwezi.
Sondage YouReport sur les 20 ans de Radio Okapi. Votre radio veut vous écouter sur ses programmes développés au cours des dernières années. Quelle opinion avez-vous de Radio Okapi? À quelle radio congolaise faites-vous le plus confiance? Quelles émissions vous suivez les plus? Quel thème aimeriez-vous que Radio Okapi développe davantage? Pour participer à ce sondage, il suffit d'envoyer le mot Okapi par SMS au 101, quel que soit l'opérateur. Choisissez la langue dans laquelle vous voulez vous exprimer. Votre point de vue compte.
Ravi de vous retrouver encore dans cette émission Okapi Service qui s'intéresse à la mobilisation des fonds pour lutter contre les changements climatiques en RDC. Jonathan Ekofo, vous êtes à Tchouapa. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Jonathan?
Quant à moi, je n'ai pas de questions comme vous le souhaitez, mais plutôt des petites gestions qui pourraient aider ce projet.
Oui, donc, allez-y.
Quant à moi, je vois, premièrement, on doit nécessairement faire les projets alternatifs comme l'invité vient de nous dire, de créer l'agriculture avec tout qu'on sort, qu'est-ce que l'agriculture pourrait donner. Et puis, deuxièmement, on doit sensibiliser la communauté par rapport à le changement climatique. Parce qu'il n'y a pas les, clubs de formation ou soit des lignes de cabinet qui font les histoires pareilles. Parce que les effets écologiques n'ont pas de frontières. Si nous pouvons préciter parfois les effets qui ont touché les pays, en RDC, vraiment, il n'y a pas moyen de déceler. En fait, une autre alternative est qu'il y a un auteur chinois qui a dit Mao Tse-Tung, il avait dit dans une ouvrage comme ça, il a dit que non, s'il y a beaucoup de bouches à nourrir, les gens vont s'attaquer directement à la forêt et aux d'autres ressources. En fait, la sensibilisation de la population et de créer des projets, des projets alternatifs et puis la planification familiale, c'est aussi les éléments importants qui vont faire en sorte que les projets puissent aller de l'avant. Merci.
Merci Jonathan Ekofo. Claudia de Koloisi, bonjour.
Bonjour Capi Service.
On vous écoute.
Ok, avant de parler de la mobilisation de ces financements, je pose la question de savoir si nous sommes vraiment prêts pour recevoir ce financement. Pour preuve, qu'est-ce que nous avons déjà fait nous-mêmes pour protéger notre environnement? Quelles sont nos précautions prises au préalable face à cette situation? Comment est-ce qu'on allait se débrouiller sans des financements extérieurs ou internationaux? Le bassin du Congo perd plus ou moins 311 000 hectares par an parce que la totalité des ménages congolais utilisent la braise pour la cuisson. Pour réellement mettre fin à la déforestation, je pense que notre pays devrait vraiment fabriquer les braises à gaz, mais même produire même notre propre gaz parce que le projet d'électrification, c'est un projet à long terme et c'est possible qu'il puisse mettre beaucoup de temps. Mmh. Oui, et concernant les paysans qui ne vivent que de la déforestation, il faudrait vraiment leur trouver un bon emploi avec une bonne rémunération pour les empêcher de se déboiser.
Oui.
Et aussi, notre préoccupation concernant l'interdiction d'utiliser les engrais chimiques pour avoir un bon rendement, vu qu'on utilise toujours les engrais chimiques pour l'agriculture. Maintenant, comme ces engrais ont un impact vraiment négatif sur l'environnement et sur la population, quelles sont les méthodes culturelles qui sont prises sans engrais chimiques? Parce que le sol est déjà détruit, il est habitué aux engrais. Est-ce qu'il y a déjà des nouvelles méthodes qui sont déjà mises en application? C'est une question maintenant à la préoccupation.
Merci.
Pour lutter contre l'insécurité alimentaire.
D'accord. Merci Claudia de Lumbach, pardon de Koloisi. Glody, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Glody.
Oui, merci pour la parole accordée. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà parlé, mais ce qui est important aujourd'hui, à ce qui concerne les changements, réchauffement climatique, ça dérange le monde. Nous devons promouvoir des solutions afin de quitter à ce stade. Mais moi, j'aimerais juste poser la question aux invités qui est là avec vous. Je pense que c'est bien d'éradiquer la réchauffement climatique. Oui, c'est bien, mais au préalable, ce que vous devez savoir, il y a certains paysans qui vivent de ces activités forestières, qui font leurs activités, des champs, tout ça. Alors, c'est bien que vous pouvez les dire de ne pas exploiter la forêt pour maintenir la forêt. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour eux? Parce que ce sont peut-être leurs sources de revenus en termes économiques qui se profitent de ça. Qui fait nourrir leur famille par ces activités-là. Alors, quand vous le dites de ne pas pratiquer cette activité, et au retour, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour eux? C'est un peu une simple question que j'ai voulu poser. Si peut-être ceux qui nous écoutent à partir de ce moment peuvent en profiter. J'ai dit et je vous remercie.
Merci, Glody, et merci à tous les intervenants. Monsieur Alain Parfait, vous avez la parole.
Merci beaucoup à tous les auditeurs, notamment celui de Chouapa, Claudia de Colodi et Glody de Kinshasa. Ce sont des questions très pertinentes, mais d'emblée, pour être très bref, j'aimerais répondre en ces termes. Pour noter que, vous savez, depuis la publication du dernier rapport du GIEC en 2018, le GIEC c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, ils ont confirmé que les collectivités locales, pour nous les entités territoriales décentralisées, sont vraiment des acteurs clés de l'adaptation et du renforcement de la résilience au changement climatique. Et ça a été prouvé par différents études qui ont démontré que les collectivités locales ont des possibilités et sont un potentiel unique sur le plan local pour travailler avec l'ensemble des secteurs et même regrouper toutes les activités liées à la résilience climatique. Chose que nous n'utilisons pas malheureusement, c'était justement pour nous éviter tous les tracas que nous avons par rapport au financement public international relatif au climat, qui a beaucoup de conditionnalités, mais aussi beaucoup d'exigences. Et d'ailleurs, cela a été démontré que ce n'est pas facile de l'avoir aussi comme ça. Alors pour contourner toutes ces difficultés-là, il faut que nous utilisions que notre adaptation climatique soit justement utilisée dans le sens de mobiliser d'abord les collectivités locales pour donner une réponse rapide aux effets des changements climatiques que nous ressentons déjà sur le plan local. Mais pour répondre aussi à Claudia, je suis d'accord avec elle. Vous savez, il y a aussi ce que nous n'utilisons pas dans notre pays, c'est les secteurs privés. Vous savez, si nous on crée un environnement d'affaires propice à la participation du secteur privé, à l'adaptation, à la résilience climatique, vous verrez des résultats. Donc, ils seront en mesure, les entreprises privées ici, les petites et moyennes entreprises, seront en mesure de collaborer à la planification des activités pour intervenir contre les changements climatiques. Chose que, malheureusement, nous ne le faisons pas. L'AFEC, il me semble, est très peu associée aux activités liées à la résilience climatique. Bref, pour dire que, en tout cas, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, il n'est nullement, à moins que Guy qui est sur le plateau me contredise, que la vie des paysans sera mise en danger quant aux efforts liés à l'adaptation et à l'atténuation climatique. Des pratiques sont recommandées, notamment l'agriculture durable, et aussi l'interdiction pratiquement de l'utilisation des fertilisants qui utilisent par exemple des engrais chimiques qui ont beaucoup plus d'impact négatif sur le sol. Et donc il y a plusieurs mesures qui sont prises pour ne pas léser les droits des paysans qui tirent les revenus de l'exploitation forestière. C'est donc on lutte, c'est par rapport aux conséquences de l'exploitation abusive des ressources forestières qui cause, si vous voulez, les émissions de gaz à effet de serre. Mais des dispositions sont prises par les réglementations et même par les politiques publiques du pays en matière de la foresterie pour que, justement, la vie des paysans ou la vie des communautés dépendantes des forêts ne soit pas affectée par ces mesures d'adaptation climatique et d'atténuation REZ+.
Alors, M. Alain Parfait,
plateau, je crois faire allusion au programme intégré REZ+, qui sont implémentés sur l'ensemble du pays, et je crois que des activités sont organisées pour promouvoir les droits des peuples autochtones, mais aussi de communautés locales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, du foncier, de l'aménagement du territoire, et même aussi de la gouvernance, pour soutenir les entités territoriales décentralisées dans les efforts d'atténuation climatique.
Alors, Alain Parfait, on peut comprendre par là qu'il y a déjà des activités qui sont menées à travers le pays et il n'y a aucune raison pour que la RDC ne puisse pas bénéficier de ces financements des 500 millions.
Bien sûr, mais il faut pas céder aux pressions des ONG et des partenaires, notamment les ONG internationales. Le gouvernement congolais est un État parti à la Convention cadre des Nations Unies. Je crois qu'il est responsable face à toutes ses responsabilités, à tous ses engagements internationaux pris pour répondre à toutes ces exigences-là. Et nous en avons les moyens. Il suffit seulement de mettre les bouchées doubles pour justement commencer à répondre à toutes ces exigences-là. Et cela dépend aussi de la qualité d'animateur que nous envoyons dans les négociations internationales sur le changement climatique, parce que là aussi c'est très complexe et il faut vraiment être très bien rodé sur cela pour faire face à toutes ces pressions.
Bien, Monsieur Guinka Jemba, votre réaction.
Bon, je pense qu'elle a ramassé une grande partie de mes préoccupations, mais je crois que oui, donc nous ne sommes pas parmi les meilleurs à s'être engagés dans ce processus. Je crois qu'au niveau mondial, nous sommes parmi les premiers pays en Afrique à avoir une stratégie nationale RED qui définit clairement les différents moteurs de déforestation. Il y a un travail qui a été fait au niveau national. Donc nous avons des repères. Là, il ne faut pas qu'on puisse penser que le gouvernement est en train d'aller...
il n'y a rien de concret, tout ça.
Il y a la stratégie nationale qui a existé, qui a été construite pendant plus de 4 ans d'ailleurs, 2009-2012. Et après, il y a un plan d'investissement. Et tout ça, c'est bien décrit, c'est bien clair par rapport aux besoins ou aux actions qu'on doit mener pour essayer un peu de lutter contre le changement climatique en RDC. Et donc... Ça, c'est d'une part. D'autre part, je demande à tous les amis de Tuapa et les autres, de voir un peu ces programmes intégrés, de les visiter et de voir ce qu'ils font. Ils vont voir qu'il y a des initiatives liées. Non seulement qu'il y a ces questions d'agriculture, il y a seulement ces questions d'afforestation, réforestation, reboisement. Il y a d'autres questions de la gouvernance. C'est-à-dire que dans la vision d'un programme RED, il y a la nécessité d'avoir... Parce qu'ici, nous parlons de la réduction des émissions et la réduction de la pauvreté. Et la pauvreté ne se réduit que quand il y a un mécanisme, quand il y a une gouvernance qui est bien structurée, qui permet aux communautés, aux populations, de discuter de leurs vrais problèmes. On ne doit pas venir pour vous dire, vous allez faire l'agriculture, vous allez faire ceci. Vous devez avoir ce qu'on appelle le comité local de développement, je pense qu'il y en a déjà plus de 500 qui ont été structurés dans ce même programme ici. Donc, il y a une base, il y a les éléments qui existent là. Celui qui est à Bouta, ici, il va avoir ainsi le PIRED. Celui qui est à Bounia, il va avoir un PIRED là-bas, il y a avec les agences comme les PNUD et les autres. Et après, on va leur demander aussi de contacter nos coordinations provinciales du GTCR qui est là avec eux. Ils peuvent discuter des questions de renforcement des capacités et des questions qui concernent un peu toute la question climatique au niveau national.
Donc tout le travail qui reste à faire, c'est la programmation, comme vous l'avez dit.
C'est la programmation.
Les activités, il y en a déjà.
Il y en a déjà, c'est dans la première lettre d'intention, il y en avait eu. Il y aura évidemment le montant est plus grand et les espaces. Donc on va essayer un peu d'élargir parce que nous avons toujours dit que le changement climatique n'est pas une question de la forêt uniquement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mécanismes de fuite. On peut réduire les émissions dans les forêts et on continue à émettre dans les villes avec en multipliant de vieux véhicules, en important des choses. Ça fait en sorte qu'on a un bilan, qui n'avance pas. Donc la vision avec ça, la programmation, stratégique ou la programmation la planification de la mise en œuvre de la liste de l'intention va essayer peut-être élargie ou ouverte ou approfondie parce qu'il y a encore plus d'argent et plus de temps, vous voyez. Mais on va construire sur l'existant pour ce qui est resté parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs aussi, il faut le dire. Comme c'était un moment un début où on n'avait pas de repères, il y a beaucoup de ratés aussi par rapport à ça qu'elle doit corriger dans la deuxième liste d'intention. Voilà.
Mais par rapport à ce qui a été dit, bon, on va accueillir d'abord un auditeur et je reviens à vous tout à l'heure. Arsène Ouapa, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Alain? Arsène, pardon.
Oui, c'est pas une question, mais j'ai une petite préoccupation.
Oui.
Moi, je me suis toujours demandé pourquoi nous, la RDC, nous avons toujours une main tendue envers d'autres pays. Tant que chez nous ici, il y a des histoires, des petites histoires que nous-mêmes on peut se supporter. Mais à chaque fois, nous avons des mains tendues vers d'autres pays, entre autres Rwanda, Ouganda, ainsi de suite. Pourquoi nous, on ne peut pas se supporter? Ici, au pays, si vous suivez, je pense que vous êtes un grand journaliste, il y a des histoires qui se passent dans ces pays ici concernant les détournements de nos autorités. Vous allez entendre qu'on a détourné 500 000, on a détourné autant de 1000, on a détourné 2 000, ainsi de suite. Avec toutes ces sommes-là, ça ne peut pas nous supporter de nous donner dans des petites choses, de nous supporter dans des petites choses. Il faut tendre des mains dans d'autres pays, des pays-là qui sont à la dimension même des provinces de la RDC. Nous sommes là pour tendre la main. On a versé autant, on a financé autant. C'est ce que je voulais un peu demander à l'auditeur. Parce que nous-mêmes, on va commencer aussi à se supporter même dans des petites choses, au lieu de tendre la main envers d'autres pays.
Bien, merci Arsène Ouappa. Fidèle Polessio, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour Radio Capier, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Quelle est votre question par rapport au financement, à la mobilisation des fonds pour lutter contre les changements climatiques en RDC?
Bien, merci Jordi pour la parole. Bon, en fait, pour moi, c'est une petite préoccupation.
Oui?
Oui. Bon, monsieur Jordi, si l'État congolais a les réels soucis de prévenir sa population, à mon sens, nous devons nous prendre nous-mêmes à charge donc de fournir nos propres moyens afin de parer à ces fléaux qui nous lorgnent déjà, au lieu de nous faire sous-estimer en donc attendant toujours les mains vers l'extérieur. Par exemple, ici, dans la cité d'Arushemi, ici, avec l'impact négatif du désert de Sahara, qui constitue déjà un risque chinois pour la population d'Arou en matière de l'agriculture. Donc, toutes les périodes agricoles sont paralysées à cause de ces fameux changements climatiques. En fait, monsieur Yoti, nous devons être à même, donc autonomes, pour mobiliser notre ressource et notre propre moyen. Et je vous remercie.
Bien, merci Fidèle Polessio. Alain Parfait, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Je partage totalement les avis de mes compatriotes Arsène de Lubumbashi et Fidèle Aourou, parce que l'accord de Paris, en son article 7, reconnaît à l'État parti l'action pour l'adaptation doit absolument suivre une démarche impulsée sur le plan local, qui soit sensible évidemment aux gens, mais aussi qui soit participatif. Et donc, c'est là pour nous permettre d'intégrer l'adaptation climatique dans les politiques et les mesures socio-économiques et environnementales au niveau interne. Et en son article 11, on nous demande, et c'est une recommandation, de renforcer les capacités au niveau local pour avoir des acteurs qui soient en mesure de bien exprimer les besoins nationaux en matière d'action climatique, mais aussi d'affaire ce qu'on appelle l'appropriation de l'État parti en ce qui concerne la résilience climatique au niveau communautaire. Et donc, nous avons là des articles importants, évidemment, de la Convention sur laquelle nous pouvons nous fonder pour mobiliser les fonds au niveau local. Et je suis tout à fait d'accord avec notre compatriote qui est pratiquement inquiet de la politique de la main tendue que nous faisons en matière de lutte contre le changement climatique. Même nous aussi, on est pratiquement
Alain Parfait.
Nous avons un potentiel immense de mobilisation des fonds au niveau local, mais qui est buté au problème d'ordre de gouvernance. On vous a cité des pays comme le Ghana, des pays comme le Costa Rica et plusieurs autres pays, des pays comme la Tanzanie, qui ont fait des émules par rapport à cela. Ils arrivent à mobiliser les fonds au niveau local. Et donc le financement international n'est qu'un un bonus sur le financement climatique local déjà mobilisé par ces États qui sont comme qui n'ont même pas un potentiel écologique comme le Congo. Et donc, je crois qu'on doit quitter vraiment cet État-là, ce qu'on appelle l'État bébé d'un pays comme la RDC, à devenir un État leader, un État responsable en matière de lutte contre les changements climatiques. Je vous donne un cas, pour finir là, vous voyez le programme 1 milliard d'arbres. Jody, tu peux me dire où en est-on là aujourd'hui avec ces programmes? Peux-tu me dire les cadres programmatiques de ces programmes-là? L'as-tu déjà vu?
Bon, ce n'est pas encore publié, peut-être que les experts sont en train d'y travailler.
Voilà, tu as une partie de la réponse.
Merci Alain. Alain Parfait Ngoulungou, je rappelle que vous êtes représentant pays de l'ONG Tenure Facility. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Merci.
Bien, on va conclure avec vous, Monsieur Guy Nkajemba, coordonnateur du groupe du travail climat Red Plus. On retient qu'il n'y a pas à s'agiter, donc la RDC n'est pas du tout en retard par rapport à la programmation. Donc les experts sont en train de travailler sur la programmation et le premier décaissement est prévu à la fin du mois de mars.
Le décaissement, je ne dis pas que le décaissement est prévu, le décaissement est, donc l'argent est décaissé.
L'argent est déjà décaissé.
C'est maintenant les affectations de fonds par rapport à une programmation.
C'est ça. Donc il n'y a pas à s'agiter là-dessus.
Moi, je ne pense pas jusque là. Parce que nous aurons un temps d'évaluer à mi-parcours. C'est pas à 3 mois ou à 2 mois. Mais je voulais juste dire un petit mot. Nous ne sommes pas ici, et je l'ai dit encore la fois dernière, la RDC n'a rien à mendier au niveau international par rapport à cette question du changement climatique.
Il n'y a pas de politique de main tendue.
Il n'y a pas de politique de main tendue. Je ne crois pas. Nous avons, comme j'ai dit, nous sommes une solution. Une solution, ce n'est pas un mendiant. C'est-à-dire, à tout moment, nous avons une réponse à une question, et que donc, si on a une solution, c'est que ce n'est pas la mendicité. Ce n'est pas, il ne faut pas qu'on rentre dans les anciens systèmes avec les mines, le pétrole et tout ça. Ici, nous sommes dans une question où nous détenons nous-mêmes les réponses, et il faut que ces réponses-là, que nous détenons, soient prises en charge pour aider l'humanité à avancer. Et ça doit être monétaire. C'est-à-dire, il y a un vendeur et un acheteur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vient demander. Nous avons quelque chose à donner avant.
Oui. Donc on ne fait pas, on ne vient pas commander.
Évitons de rester dans cette posture traditionnelle d'un pays mendiant où tout est mendiant, la Banque mondiale de l'argent, tel est l'argent. Non. Ici, il y a des marchés carbone qui existent et qui sont en train de se construire aussi en même temps. Vous voyez? Ces marchés-là, c'est-à-dire que c'est un marché, vous avez combien de tonnes de carbone et je les achète à combien?
À 10.
Maintenant, il y a des prix du carbone.
Donna.
Oui. Donc, dans ce cadre ici, on n'est pas dans l'histoire de mendicité et on doit arrêter de se comporter comme des mendiants. Que ce soit les dirigeants, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants aussi qui continuent à penser qu'il faut aller demander de l'argent
à gauche
à changement climatique. Non.
Merci, monsieur Guinka Jemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Excellente journée.
Merci beaucoup, Jeudi.